dans la grande table des idées aujourd'hui. Rendez-vous avec un homme de l'ombre, l'ancien conseiller aux affaires stratégiques de Barack Obama. Il a rédigé la plupart de ses discours de politique étrangère, vécu à ses côtés depuis la campagne présidentielle. Ben Rhodes est notre invité à l'occasion de la parution en France de Obama confidentiel chez Saint-Simon. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, c'est le visage d'une muse chabrolienne, Isabelle Huppert, en violette nosière, qui a été choisie pour l'affiche de la 44e cérémonie des Césars qui se tiendra à Paris le 22 février. Huppert, César de la meilleure actrice pour La Cérémonie en 96, qui sera diffusée dimanche prochain sur Arte à l'occasion d'un cycle Chabrol qui réunira aussi Le Boucher et Juste avant la nuit, et un documentaire portrait inédit. Retour sur l'œuvre d'un monstre tendre du cinéma français, Claude Chabrol, et coup de projecteur sur la nouvelle édition du Festival international du film de Berlin avec Michel Simon d'ici midi et demi, à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bien, je fais des films, à vrai dire, parce que je suis assez généreux de nature, alors j'aime bien dire, regardez si c'est joli ça. C'est pour ça que je fais des films. Je me dis, regardez, comme ce coup de poing est bien donné, par exemple. Vous voyez, appréciez-le. Et c'est pour ça. Il y a des gens qui s'ennuient dans la vie, ceux-là font de mauvais metteurs en scène, forcément, parce que ce qu'ils voient ne leur plaît pas, alors qu'ils voient les mêmes choses que d'autres qui trouvent ça passionnant. Alors tout le travail consiste, pour les gens qui trouvent ça passionnant, essayer de le mettre sur pellicule en disant « Regardez comme c'est passionnant, n'est-ce pas que c'est passionnant ?»
Curieux et gourmand, plus de 50 films en 50 ans de carrière et des téléfilms dans sa série d'histoires insolites. Si les faits et les comportements humains étaient sa matière première, il trouve aussi son inspiration dans les livres qui l'entourent dès l'enfance. Pour preuve, ses adaptations de Simenon, de Manchette, de Flaubert ou encore de Maupassant. Alors qui était Claude Chabrol ? Portrait aujourd'hui d'un maître du cinéma par sa belle-fille et collaboratrice Cécile Mestre Chabrol. Vous avez réalisé l'anticonformiste, Chabrol l'anticonformiste qui sera diffusé lundi prochain sur Arte. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, un comédien de la famille Chabrol, François Berléand, à l'affiche de L'ivresse du pouvoir et de La fille coupée en deux, un an après, 2007. Présent aussi dans le téléfilm Le Petit Fut de la collection chez Maupassant, actuellement au théâtre Édouard VII à Paris, aux côtés de Michel Larocque, pour encore un instant sur une mise en scène de Bernard Murat. Bonjour François Berléand.
Bonjour.
Claude Chabrol, moraliste gourmand et lucide sur les humains que nous sommes, dites-vous Cécile Mestre Chabrol, en ouverture du film Portrait que vous lui consacrez. Il a construit une œuvre qui, avec humour et cruauté, fait tomber les masques et tire à vue sur les puissants, les arrogants, les bien-pensants et les...
Et les cons.
Et les cons. On rembobine le film avec notre réalisatrice, Marie Placet.
Tu vieillis bien, toi, hein ?
Hein ?
Bah, par rapport à Serge.
Oh, Serge, lui, c'est pas pareil. Il a été déçu, tu comprends ?
Vous m'accompagnez à la maison ? Peut-être que Clément est rentré.
Pardon ?
Vous m'accompagnez ?
Fous le camp, parce que tu me rends malade. Je suis pas Paul, moi, il faut que je bosse. J'ai pas de temps à perdre dans vos beuveries. Et puis j'ai promis à ma mère d'être reçue. Si je rate... Oui, ça a l'air idiot, mais si je rate, ça sera terrible pour elle. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on aime sa mère. Vous ne pensez qu'à coucher.
C'est très sincèrement que je vous ai offert mon amitié, vous couchez avec ma femme. J'espère que vous en retirez l'un et l'autre tout le plaisir et tout le profit que vous en attendiez. Vous le méritez. Aucun problème en ce qui me concerne de ce côté-là. Croyez-le bien, j'aime voir les gens heureux autour de moi, sans quoi me présenterais-je au suffrage de mes concitoyens.
Le furet du bois joli. Il fourre le curé.
Le curé.
Avec Madame Lantier.
Ah oui, tu crois ?
Oui.
Petit.
Bonsoir, monsieur Cachoudas.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Je sais que j'aurais pu me suicider. Ça aurait été mieux pour vous tous. Mais c'était trop lâche. Trop lâche. Je ne peux pas me mépriser à ce point. Pardonne-moi.
Je t'admire. Comme je n'ai jamais admiré personne dans ma vie.
Et mon mari ?
Il est mort, votre mari.
Jésus !
Ce que je veux, c'est ta peau de salaud. Et je l'aurai. C'est comme si c'était fait. Sans que tu puisses remuer le petit doigt. C'est comme si tu étais mort.
Ta gueule, charogne, ordure, fumier, salope, pourri.
Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Du fond du cœur.
Alors faire tenir 58 films en 2 minutes 30, c'est toujours une prouesse. Ici, des extraits du Beau Serge, des Cousins, des Noces Rouges, de la Cérémonie, des Fantômes du Chapelier, de Juste avant la nuit, et encore de Que la bête meurt, pour terminer sur Les Masques, François Berléand. Qu'est-ce qui l'attirait tant chez nous, dans la nature humaine? Qu'est-ce qu'il aimait regarder?
Écoutez, je suis pas un grand spécialiste de Claude, mais c'est quelqu'un qui est issu de la bourgeoisie de province, c'est ce qu'il aimait regarder. Je crois que c'était ses semblables, enfin ceux qui par qui il a été éduqué. Et puis je pense qu'il avait suffisamment d'humour pour s'en moquer et il le faisait de façon remarquable. Il me semble que c'est la nature humaine, mais la nature humaine, elle peut être intelligente, elle peut être bête, et donc c'est quelqu'un qui regardait la nature humaine telle qu'elle est en France.
C'est la nature humaine et c'est la comédie humaine, on le sait, Cécile Mestre-Chabrol, très inspirée par Balzac, par ce plaisir d'observer les hommes évoluer, leurs faiblesses, leurs cruautés, les conventions sociales, les dérives du pouvoir aussi. Parmi ses semblables, parmi nous, il se situait où, Claude Chabrol? Il était au milieu, il était un peu au-dessus de nous. Il y a souvent ce terme d'entomologiste qui est utilisé pour parler de lui.
Ouais, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Moi, je crois que ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était, à l'image de Simenon, c'était comprendre et ne pas juger. D'abord comprendre. Je crois que l'activité principale de Claude Chabrol, c'était de réfléchir. Il passait son temps à ça, je pense, et du coup réfléchir pour comprendre comment cette machine fonctionnait. Toutefois, dans la vie, parfois, il manquait un peu de psychologie, mais elle était dans ses films. Même là, quand on entend ce montage que vous avez fait, qui est vachement bien, il savait quand même toujours percer quelque chose et aller gratter là où on n'a pas envie d'être vu, peut-être. Et c'est ça qu'il aimait, je pense, et ne pas juger, parce qu'il y avait pas de, pour le coup, où est-ce qu'il se plaçait. Je pense qu'il se plaçait à niveau, c'est-à-dire souvent il mettait la caméra, toujours il utilisait la caméra à hauteur d'œil, donc pas trop haut, pas en dessous, à hauteur d'œil pour rester lucide et le plus cohérent possible.
C'est Isabelle Huppert dans votre documentaire qui dit qu'il n'avait pas d'ego, il ne se percevait pas comme alors, ayant un ego. Hein.
Ouais, c'est lui qui le disait surtout. Enfin, alors.
Et elle le croyait à moitié.
Alors, ouais, le croyait à Mathieu. Alors moi, je crois que à partir du moment où il a dit qu'il n'avait pas d'ego, il en avait plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il en a jamais eu. Je pense que plus jeune, et on le voit dans le documentaire, il a quand même son bon. Il a conscience de lui-même, forcément. Il se construit et tout ça. Mais je crois qu'à partir du moment où il a dit qu'il n'avait plus d'ego et ça faisait marrer tout le monde, Isabelle y compris, je crois que c'était assez vrai, ouais. Au fond.
Je crois aussi. Et c'est quelqu'un qui était très lucide sur son œuvre. Donc, moi, je me souviens que la première fois que j'avais discuté avec lui, je dis ouais, pardon, j'ai pas un CV formidable, etc. Et il dit mais moi aussi, j'ai fait texto des merdes, voilà. Mais je vivais de ça et j'ai toute mon œuvre n'est pas exceptionnelle, loin de là. Donc, il était très lucide. Mais moi, je dirais que c'était un anticonformiste surtout. C'est ça. T'as un anarchiste, quoi. C'est quelqu'un qui ne se pliait pas aux conventions, qu'elles soient du cinéma ou qu'elles soient de la vie, quoi, de politique.
En tout cas, quand il disait qu'il n'avait pas d'ego, il y avait aussi cette notion de ne pas, ce que dit Isabelle aussi, c'est-à-dire de ne pas prêter le flanc aux hommages. Il avait une phrase très drôle, il disait « J'ai été victime d'un attentat de toute la profession, on m'a proposé un César d'honneur ». Ça, c'est toutes les médailles, tous les tapis rouges, tous les protocoles, tout ça, il détestait ça, vraiment profondément.
Alors, est-ce qu'il avait aussi un goût pour le grotesque? La question lui avait été posée, on l'écoute, c'était dans Radioscopie.
On m'a souvent reproché, enfin, une des choses qu'on m'a reproché et que je n'ai jamais compris, c'est qu'on me reprochait de mélanger les genres. C'est-à-dire passer du comique au tragique et tout ça. Or, je trouve que Je crois que de ma vie, je n'ai jamais fait un gag. C'est-à-dire, le comique vient du fait que le personnage est ridicule. Alors à ce moment-là, les gens rigolent. D'ailleurs, quand on réussit à être très juste, ça m'arrive pas tout le temps, mais quand on réussit à être juste sur la description d'un caractère ou d'un trait de caractère un peu drôle, ça frappe toujours énormément les gens, bien plus qu'un gag mécanique.
Votre personnage favori, c'est l'imbécile heureux.
L'imbécile heureux n'est pas tellement dangereux. Celui qui me fait peur, c'est mon personnage favori, ça serait l'imbécile heureux. Mon personnage de prédilection étudié, c'est plutôt l'imbécile qui n'est pas heureux. Parce que il a tendance à devenir méchant et c'est à ce moment-là qui me fait très peur.
Et ce personnage de l'imbécile pas heureux, c'est Sylvestre Chabrol, ce serait qui? Michel Bouquet dans Juste avant la nuit, Claude Pieplu dans Les Noces Rouges?
Ah, plus, je crois, Pieplu dans Les Noces Rouges, parce que Bouquet, c'est pas un imbécile heureux, c'est autre chose. Mais alors, à propos des cons, bon, il disait qu'il avait, au fond, plus de goût pour la connerie, parce qu'elle avait pas de limite, alors que l'intelligence en a une. Mais au fond, quand on dit, il faut se méfier quand on parle des cons, parce qu'il faut pas se mettre dans la posture de « je parle des cons, du coup moi je ne suis pas con ». On est tous le con de quelqu'un, il y a aucun doute là-dessus, Claude y compris. Mais je crois que celui qu'il préférait vraiment et qu'il imitait extrêmement bien, c'est le con arrogant. C'est-à-dire le con très 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 imbu lui-même. D'ailleurs, François, il le fait très bien aussi, le con arrogant.
Non, je ne le fais pas.
Dans la vie ou au cinéma?
Mais ça, c'était celui, je crois, parce que c'est vraiment le con imbu de sa personne. Ça, c'était le con magnifique pour Chacha, je crois.
Ils étaient quoi, vos personnages dans L'Ivresse du pouvoir et dans La fille coupée en deux? Parce que c'est pas tant du ridicule que justement des personnages de sachants qui affichent une certaine arrogance.
C'est ça, oui. C'est le con arrogant.
Alors, je ne sais pas, dans L'Ivresse du pouvoir, je ne suis pas sûr que mon personnage était con arrogant, mais en tout cas, il était arrogant au départ, puis au fur et à mesure,
il
se tasse beaucoup même. Alors que dans La fille coupée en deux, c'est... oui, il a l'arrogance peut-être des... Je ne suis pas du con en tout cas, mais en tout cas de la personne qui a réussi, de l'auteur à succès, etc. Mais... c'est plus l'inscription dans une histoire, les personnages qui fait jouer à... Enfin, moi, c'est toujours l'histoire qui est passionnante dans les films de Chabrol. Après, évidemment, les personnages sont solidaires de l'histoire, c'est l'histoire qui me paraît importante. Le con, il vient s'inscrire dans le scénario, quoi. Mais c'est un peu compliqué ce que je viens de dire.
Non, je suis pas tout à fait d'accord en plus.
Ah bah voilà.
C'est une messe à bol. Pas encore.
Non. Je crois que c'est il part des personnages. Au contraire, et qu'au fond l'intrigue est pas si importante que ça dans ces films. Mais en même temps, là où c'est, je vais rejoindre la complication de François, c'est que c'est les personnages qui font l'histoire. Alors bon, on s'embrouille.
Oui, c'est un embrouille.
Il avait aussi un goût pour le noir du roman à l'écran. Hein. On a l'impression que de l'imbécile pas heureux, on va glisser petit à petit dans sa filmographie vers de vrais méchants, des vrais sadiques. Hein. De L'étude de mœurs, on passe au thriller psychologique. On peut penser aussi à Que la bête meure ou Le boucher. Il avait un goût pour le sombre dont il estimait que quoi, pour vous, l'étincelle, la lumière pouvait jaillir.
Ouais, grande question. Il avait un goût pour le fait divers, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il attirait dans le fait divers
C'est étonnant, c'est qu'on le voit partout, comme un bon vivant, Claude Chabrol, avec toujours le sourire aux lèvres, la blague au coin de la bouche, et en même temps, il pouvait effectivement s'intéresser à des faits divers qui étaient particulièrement
bien sûr
sombres.
Mais je crois que c'est pas du tout paradoxal. Beaucoup de gens me disaient qu'au fond Claude portait des masques, qu'il avait comme ça, c'était pas possible de faire un cinéma aussi noir, aussi sombre, tout en étant lui-même aussi poilant et revendiquant la déconnade et la rigolade. Je vois pas du tout en quoi c'est paradoxal. Ceci dit, peut-être il avait ses angoisses, pas, mais ses doutes, ça c'est certain, ses questionnements, mais je crois que c'était un homme qui était assez dénué d'angoisse, oui. Contrairement souvent à beaucoup de réalisateurs qui ont beaucoup d'angoisse et qui surtout les font pas mal porter aux gens qui les entourent, ce qui n'était pas le cas de Claude, parce que Claude était très heureux quand il tournait, très heureux. Donc, je crois que quand on fait les choses qu'on est heureux, on les fait gaiement, si toutefois on a un caractère joyeux, ce qui était son cas. Mais il n'empêche que oui, il aimait les romans noirs les plus noirs, il aimait le Roy, il aimait tout ça. Alors, il y a une jouissance, bien sûr, à regarder les autres se perdre.
Est-ce que vous avez le sentiment, dans sa trajectoire, qu'il était de plus en plus apaisé comme cinéaste dans les sujets qu'il abordait?
Je ne suis pas sûre dans sa trajectoire. Dans sa trajectoire d'homme, c'est certain. Il a, à partir de la cérémonie, commencé à parler de la béatitude, ce qui est quand même un mot. Je suis béat, il le disait assez souvent. Hein. C'était pas je suis heureux, c'est je suis béat. Mais dans son cinéma, je crois quand même que jusqu'au dernier film, non, il était pas, il voyait pas, je crois, les choses de cette façon tranquille. Je crois qu'il cherchait toujours à ne pas emmerder le spectateur. Il se préoccupait beaucoup de est-ce que ça va intéresser encore les gens? Est-ce qu'au fond, mon cinéma peut encore continuer à intéresser? Je crois pas qu'il se voyait comme un cinéaste qui aurait un peu jeté l'éponge ou quoi. Certains l'ont dit sur la forme, tout ça. Moi, je crois que ce qui fait aussi une particularité du cinéma de Claude Chabrol, c'est que il s'agit de sujets tout le temps, et donc en cela, ils ne vieillissent pas, ces films. Parce que on l'entend, je trouve, dans le montage que vous avez fait. C'est toujours des sujets, et en ça, ça fait une œuvre qui est toujours moderne, je trouve.
François Berléand, il est mort il y a 9 ans, Claude Chabrol. Est-ce qu'il se serait, pour vous, délecté de cette époque?
Je crois qu'il se délectait de toutes les époques, de tous les moments, parce qu'il y a de quoi faire. Hein, je pense que là, il serait assez content du bordel ambiant, parce que c'est...
Il attendait la révolution tous les ans, donc il devrait être assez content.
Il y avait quelque chose chez lui qui était... voilà, je pense qu'il serait... Il serait content en ce moment.
Hein ? Il serait content. Après, moi, je me demande par quel biais il rigolerait, parce qu'il y a quand même des trucs pas très rigolos. Il y a toujours des personnages politiques magnifiques qui l'inspiraient, ça c'est certain. Des personnages avec des gros sourcils ou des provinciaux comme ça, ça lui plairait beaucoup. Mais je sais pas comment. J'aimerais bien savoir par quel biais il prendrait ça aujourd'hui.
La crise des gilets jaunes, notamment. Où est-ce qu'il aurait mis sa caméra, pour vous? Du côté de la rue ou du côté de Matignon et de l'Élysée? Qu'est-ce qui l'aurait intéressé?
Ah, il l'aurait mise du côté de Matignon, puisqu'il disait et revendiquait que il vaut mieux s'intéresser, pour lui, de son point de vue, il vaut mieux s'intéresser à ceux qui tirent les ficelles qu'à ceux qui subissent. Voilà, Claude, il le dit, il le disait fréquemment. En tout cas, il vivait comme ça, il n'aimait pas l'autorité. Il n'aimait pas l'autorité parce que c'était l'autorité, mais il a choisi de peindre ceux qui avaient l'autorité et le pouvoir, plus que ceux qui subissent le pouvoir.
Chabrol, le truculent, le croquant, l'anard, à l'honneur sur Arte dimanche et lundi prochain avec la diffusion de la cérémonie, le boucher et juste avant la nuit, ainsi que de Chabrol, l'anticonformiste, de Cécile Mestre-Chabrol, notre invitée aujourd'hui aux côtés de François Berléand jusqu'à midi et demi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
J'ai longtemps vécu avec une réputation de galopin et de rigolard, qui me ravissait d'ailleurs, c'est très agréable. Et puis, à un moment donné, ça a failli me causer du tort. C'est-à-dire que j'ai fait avoir des difficultés à tourner. Et ça, je ne supporte pas d'avoir des difficultés à tourner. Et je deviens très méchant. Et par méchanceté, je me suis dit, mais puisque c'est comme ça, pas une blague... pas une plaisanterie, le visage de l'austérité et du sérieux.
Alors, il a réalisé une centaine de films, Claude Chabrol, ciné et télé confondus, près de 2 films par an. Il était lucide, vous l'évoquiez, François Berléand, il avait fait des navets, il les avait reconnus, mais il était quand même boulémique. Vous diriez que c'était un dilettante prolifique?
Mais pas un dilettante, c'était un travailleur. Moi, j'ai entendu souvent, oh oui, maintenant il devient flemmard. Il est mort à 80 ans en ayant fait 2 films par an. Si c'est ça la flemmardise, alors voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pour moi, c'est un exemple extraordinaire de quelqu'un de curieux, de travailleur, d'intelligence. Il a une vitesse absolue. C'était phénoménal. Quoi. Quand Chacha est mort, on l'appelait Chacha, moi j'étais dévasté pendant longtemps parce que C'était comme un père de substitution pour moi, mais vraiment. Et donc sa mort m'a profondément touché. Mais c'était vraiment quelqu'un de formidablement aimable.
Qu'est-ce que représentait le cinéma pour lui dans sa vie? Pourquoi il faisait des films? Pourquoi il avait ce besoin de cinéma?
Oh, le cinéma représentait presque tout. Enfin, tout était relié au cinéma puisqu'il s'était démerdé. Ma mère disait, ma mère est Aurore, qui était sa script, disait « Chacha fait ce qu'il veut, je fais le reste ». C'est-à-dire qu'il s'était au fond démerdé à fabriquer une petite entreprise dans laquelle les gens qu'il aimait le plus travaillaient. Famille, amis, acteurs, compositeurs, enfin, scénaristes, etc., etc. Et du coup, il était toujours entouré des gens qu'il aimait à faire ce qu'il aimait le plus. Et quand il ne faisait pas ça, il regardait des films à la télévision. Donc le cinéma était absolument partout, tout le temps. Ça se mêlait, le cinéma se mêlait dans la vie, dans le... Oui, enfin, disons même, je dirais même, pardon, c'est juste, la vie prenait le pas sur le cinéma. C'est-à-dire, c'était pas comme... la vie, c'était pas du cinéma. Il y avait quand même une barrière, bien sûr, mais le cinéma prenait une place considérable, ouais.
Oui, vous dites que c'était aussi son jouet, mais un jouet très sérieux, à la fois moral et éthique. Ce qu'on entend dans le documentaire où il est dit, la technique, c'est ce qu'il racontait, hein, la technique, ça s'apprend en 2 heures, mais tu peux passer ta vie à ne pas savoir placer ta caméra, que la position de la caméra, c'était une affaire morale. Alors, mm-hmm. Il y avait toute cette famille de cinéma autour de lui. Tout le monde fonctionnait au cœur, dit François Cluzet, devant votre caméra. Cécile Mestre-Chabrol, il a tourné avec lui notamment dans L'Enfer en 94. Il y avait aussi la complicité qu'il avait avec votre mère, Aurore Pajot, qui a été sa script pendant combien, 4 décennies?
Aurore Chabrol a été sa script de 67 à la fin, ouais.
Et puis il y avait ces deux muses, il y a eu Stéphane Audran, près de 25 films ensemble, mm-hmm. Isabelle Huppert, qu'on citait en ouverture, qui était dans Violette Nozière, Merci pour le chocolat, La Cérémonie, Madame Bovary, L'Ivresse du pouvoir, une affaire de femme, et qui donc aura son visage en tête d'affiche de la prochaine cérémonie des Césars dans ce rôle de Violette Nozière où elle avait 24 ans, une photo qui est signée Robert Corbeau. Comment procédait-il? Vous dites qu'il y avait une méthode Chabrol. C'était quoi cette méthode?
Cette méthode, c'était de tout concentrer sur l'essentiel. Claude, il réfléchissait beaucoup. Ce qui l'aimait par-dessus tout, c'était au fond quand il avait écrit le scénario, c'est-à-dire qu'il adaptait un scénario en général qu'un scénariste lui livrait. Il adaptait le scénario. Et pendant qu'il écrivait l'adaptation de ce scénario, sur ses grands cahiers, avec son stylo, sans rature, sans brouillon, sans rien, il construisait le film à l'intérieur de sa tête. Il construisait le montage du film à l'intérieur de sa tête. Quand ça s'était terminé, le scénario partait, il était tapé, le producteur allait chercher de l'argent et nous on rentrait assez vite en préparation. Pendant le temps de cette préparation, il s'emmerdait comme un rat, donc, parce que ce qui l'intéressait lui, c'était où je mets la caméra et comment je m'occupe des acteurs. Donc au fond, tout ce qui est la couleur des rideaux, etc., etc., tout ça, il s'en foutait. Donc il attendait avec impatience le tournage. Pendant ce temps-là, donc pendant ces 3 mois, il fabriquait 2 ou 3 ou 4 autres façons de tourner. Donc quand il est arrivé le premier jour, il était hyper prêt. Et donc c'était ça sa méthode, c'était qu'on n'attendait jamais pour savoir où il mettait la caméra. On allait vite, on tournait vite, beaucoup, on était tous très concentrés, mais on faisait aussi beaucoup de conneries.
Cas pratique avec un extrait de La jeune fille coupée en deux, sorti en 2007, où vous jouez le rôle de Charles Saint-Denis, François Berléand, écrivain à succès, dont tombe amoureuse une jeune présentatrice météo incarnée par Ludivine Sagné. Là, il est en interview et il parle de son job d'écrivain.
Alors, au fond, Charles Saint-Denis, qu'est-ce qui vous motive?
Le contact avec la réalité. C'est un vrai problème pour les écrivains, vous savez. Je mène une existence de nonne.
Et alors justement, actuellement, quel sujet en particulier vous intéresse?
Eh bien, je me demande si la société française se dirige vers le puritanisme ou la décadence.
Ah oui, vaste sujet.
Surtout pour une nonne.
un dernier mot, si vous le permettez. En lice, pour le Goncourt.
Il a déjà eu...
Ah mais c'est vrai, vous l'avez déjà eu. Félicitations du reste. Alors rappelez-nous, c'était en quelle année ça?
En 69. Année magique.
S'il en est une. Et l'Académie, ça vous dit?
Comme vous le savez, j'adore les citations, alors je vais vous en balancer une. Vous connaissez Piron, ce dramaturge du XVIIIe siècle, l'auteur de la Métromanie.
Et bien sûr, mais bien sûr, Piron.
Eh bien, ce brave Piron a écrit lui-même son épitaphe. Sigy Piron, qui ne fut rien, pas même académicien.
Là, comment ça s'est passé sur le tournage, François Berléand?
Cette scène-là où,
Non, en général.
En général, mais c'est comme dit Cécile, quoi. On répétait devant lui la scène, et puis il dit, ben voilà, on met la caméra là, et puis voilà, il avait découpé en... Donc c'était un tournage, les tournages enfin, que j'ai fait en tout cas avec lui, c'était toujours de très très bonne humeur. Et un jour, je lui avais demandé s'il avait un conseil à donner, ce serait quoi un réalisateur. Il m'a dit, mettre toujours en haut à droite du cadre quelque chose qui attire l'attention du critique. La moitié d'un objet, par exemple, ou n'importe quoi, qui fait que quand on a un moment un peu difficile à faire passer, notamment au niveau du texte, voilà, on met tout de suite dans un plan assez large un petit bout de quelque chose, et puis, dans un plan rapproché, un petit bout de quelque chose, et puis après on l'énergie, et là le critique a enfin compris ce qui se passait, et on a détourné l'attention de... Voilà, c'est ça le principe de mise en scène que m'avait donné Claude.
Vous étiez, vous, assistante à la réalisation et co-scénariste du film, Cécile Mestre-Chabrol, sur ce tournage. Le personnage de l'écrivain, il tenait un peu de Chabrol?
Non. Oh, c'était un mélange, non. Ouais. Il y avait des choses, oui, par exemple, le fait, je vais dire que c'était très malin ce truc d'avoir trouvé d'être un fin gourmet, parce qu'au fond, à chaque fois qu'il était invité quelque part, les gens sortaient les meilleurs produits et les meilleurs vins, ça, je trouvais ça très malin. Donc, je l'avais collé à Charles Saint-Denis. Oui, il y avait des choses, en même temps, il y avait pas, Charles Saint-Denis, il est quand même très très arrogant et un but de sa personne, ouais. Donc ça, il ressemblait pas tellement à Chacha. Non, c'est pas un non, s'il y a un personnage qui est proche de Claude, c'est Ro dans Rien ne va plus, qui est un film écrit par Claude. Et le personnage de Michel, là, oui, ressemble à Claude Chabrol, oui, plus que François dans La fille coupée en deux.
C'est vous qui avez choisi les trois films ou participé à choisir les trois films qui sont diffusés sur Arte durant
pas
ce cycle. Et ils vous semblent néanmoins assez représentatifs
de cette période. Oui, bien sûr. Moi, j'adore
d'une
les
période,
de cette période pompidolienne.
Le
oui,
Boucher,
les films
juste avant la nuit.
Ouais. Et les Noces Rouges. Ouais. Surtout les Noces Rouges juste avant la nuit. C'est des films qu'on voit pas souvent et ils sont extraordinaires. Leur sujet est magnifique et les acteurs sont brillants. Pieds-Plu est génial.
Pieds-Plu est exceptionnel.
Ouais, exceptionnel. C'est vraiment des seconds couteaux exceptionnels. Ouais. Exceptionnels.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Cycle Chabrol, donc, à revoir sur Arte. Ce sera dimanche et lundi prochain avec trois longs métrages et votre documentaire Chabrol l'anticonformiste. C'est à voir et à revoir avec gourmandise comme il l'était.
Les Noces Rouges, c'est ce soir même, je crois.
Merci beaucoup.